Vous allez retrouver votre partenaire de débat préféré, Alain Duhamel, qui est avec nous ce soir, Natacha Polony, je vous rappelle, la directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
On a l'impression que c'est le mois de Noël en mai, versement automatique des bourses aux collèges et lycées, l'année prochaine, accès direct aux infirmières et kinés sans passer par le médecin généraliste, on applaudit. Plus de points perdus pour les petits excès de vitesse, la chasse aux fraudeurs fiscaux ultra-riches qui vient d'être annoncée. On voit bien que le gouvernement multiplie les annonces, des cadeaux, vous êtes d'accord?
Bah, disons que depuis la promulgation de la réforme des retraites, et une fois passée l'émotion initiale, il y a une contre-offensive médiatique du gouvernement, c'est une évidence, on le voit bien. Bon, alors elle comporte, vous avez eu raison d'en rappeler un certain nombre, il y en a même d'autres, mais enfin vous avez dit l'essentiel, comme toujours. Au-delà de l'espèce de pluie et presque d'averse de mesures quotidiennes, immédiates, sensibles, il y a encore, d'une part, une tentative de réhabilitation de la politique économique redevenue néolibérale, et il y a d'autre part l'annonce, là encore censée être populaire, même très populaire, de ce qui peut toucher soit à la fraude, donc la lutte contre, en l'occurrence, les plus riches, et puis ce qui touche à l'immigration et dont on sait que 70% des Français, y compris une majorité de ceux qui votent à gauche, l'attendent. Donc il y a tout ça. Pour que ça marche, il faudra d'abord que l'inflation commence à baisser, c'est-à-dire que les gens aient le sentiment que ça peut-être s'améliorer, que ça peut fonctionner. Bon, et puis d'autre part, il faudrait qu'il n'y ait pas une relance émotive forte à l'occasion du vote de la loi de l'abrogation le 8 juin.
Natacha Polony.
Pour que ça marche, il faudrait peut-être de la volonté politique, une vision à long terme et justement pas cette idée qu'on va mettre quelques petits pansements pour améliorer la cote de popularité du président de la République et du gouvernement.
C'est-à-dire par exemple, la vie des Français un peu quand même.
Oui, mais enfin, si encore une fois, l'amélioration de la vie des Français, ça nécessite une politique qui soit une politique structurelle, cohérente. Par exemple, on est toujours dans le marché européen de l'électricité, donc avec le tarif européen de l'électricité qui est une absurdité. Il y a encore des artisans qui sont en train de le payer. On n'a pas, sur l'immigration, on voit bien à quel point il n'y a pas de réflexion globale sur des politiques qui seraient des politiques nécessaires à prendre. Il suffit de regarder ce que font nos voisins allemands pour trouver 2-3 idées qui seraient pas mal à mettre dans la loi. De même, sur la réindustrialisation et la lutte contre la fraude fiscale, là aussi, des idées, il y en a, mais elles sont structurelles. Par exemple, lutte contre la fraude fiscale, c'est très bien de venir accrocher quelques têtes. Quand vous avez un système général qui favorise l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qui permet à des grandes entreprises d'utiliser la libre circulation des flux de capitaux pour aller se domicilier, qui au Luxembourg, qui aux Pays-Bas, pour éviter justement de payer l'impôt qui est dû. On voit bien que venir accrocher des têtes comme ça, venir distribuer quelques cadeaux, c'est très bien à court terme. Mais la solution, c'est une politique à long terme et pour l'instant, elle n'est toujours pas mise en œuvre.
Bon, alors d'abord, en ce qui concerne la politique d'immigration et l'exemple allemand, je ne suis pas sûr que ce serait l'idéal des Français de recevoir une proportion comparable d'immigrés maintenant à ce qui se passe en Allemagne.
Je parlais de la question de l'obligation d'apprendre la langue, de la question de l'obligation d'installation, c'est-à-dire qu'on ne s'installe pas où on veut, c'est la puissance publique qui répartit. Alors, et ça rendrait beaucoup plus acceptable l'immigration, ça permettrait que ne se créent pas des ghettos. Il suffit de regarder ce que font nos voisins pour comprendre qu'on pourrait améliorer, avoir une vraie politique migratoire.
Vous le savez, vous ne le dites pas, mais vous le savez, il y a aussi dans les projets de loi sur les migrations des types d'intégration qui sont prévus et qui n'existent pas jusqu'à présent.
Il n'y a pas ça. Il y a une petite amélioration.
Attendez, je peux développer un petit peu.
Oui, allez-y.
Oui. Bon, je ne vous dis pas que ce qui est en préparation, c'est idéal, que tout va marcher et que ça se fera en une année. C'est de la blague, bien sûr. Mais je pense que vous avez tendance, quand il y a des mesures immédiate. Si on ne les prend pas, on dit, bah là, on fait rien, ils sont indifférents, ils comprennent pas ce qui arrive aux Français. S'ils les font, bah oui, c'est des mesures à court terme, ce sont quand même des améliorations.
Bon. Mais les mesures que je cite peuvent être prises immédiatement.
Je pense que pour chacune des mesures qui sont prises, s'il y a une amélioration, globalement, c'est non pas la solution de tout, mais c'est quand même au moins un premier pas. Maintenant, sur les mesures à long terme, vous avez vos conceptions tout à fait honorables et en tout cas parfaitement cohérentes. Alors, je ne discute pas du tout ce point-là. Bon, mais il y a d'autres solutions et d'autres politiques qui sont possibles aussi. Et
par exemple,
sur la politique qui est menée en matière fiscale depuis longtemps, depuis 2017, hein, qui est moins d'impôts, moins de charges,
plus de croissance,
ça fait baisser le chômage et ce qui n'était pas prévu ni même imaginé au départ, bien qu'il y ait moins d'impôts, comme il y a eu plus de croissance et comme les choses se sont pas trop mal passées, il y a eu plus de rentrées fiscales, ce qui était quand même pas prévu au départ. Bon, donc ce que je veux dire, je suis pas en train de vous dire que ce que je viens d'esquisser là, c'est la réponse idéale à tout, parce que ça n'est évidemment pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas une réponse. Il y a des gouvernements dans une situation qui est une situation de crise multiples et simultanées, mais qui ont des options à prendre. Alors, il y a votre option, qui est une option tout à fait cohérente, je répète. Mais il y en a d'autres.
Oui, mais Natasha Alain, vous disiez vous-même en introduction, vous reconnaissiez que les mesures qui sont prises actuellement sont quelques gouttes de miel pour essayer de faire passer la pilule amère.
Parce que j'essaye d'être toujours de bonne foi.
Oui, moi également, c'est simplement que pour ma part, j'estime aussi qu'on peut critiquer cet état de fait et qu'on peut aussi critiquer. Et surtout, j'essaye en permanence de critiquer, non pas juste pour le plaisir de critiquer, mais pour proposer autre chose.
Oui,
ce que je reproche encore une fois à la politique d'Emmanuel Macron, c'est de n'aller pas au bout des logiques. Il identifie les problèmes. Mais pour autant, c'est une politique qui, au pied du mur, recule. Encore une fois, on peut être d'accord, il a le mot réindustrialisation à la bouche. Là, tant mieux. Moi, je me réjouis qu'enfin, on s'intéresse à cette question-là.
Bah, depuis 40 ans, quand même.
Depuis 40 ans, non. Il y a 5 ans, Alain, quand vous parliez réindustrialisation, on vous regardait comme si vraiment vous étiez en train de parler de trucs totalement ringards.
Je me suis mal exprimé, donc vous m'avez mal compris.
Le problème remonte à 40 ans.
Alors, Natacha et Alain.
D'accord. Donc, enfin, on le découvre. Mais encore faut-il identifier les raisons de cette désindustrialisation.
Natacha, Alain, le point de départ de notre discussion, ce sont ces cadeaux, gouttes de miel, comme vous disiez. L'objectif du président, c'est 100 jours, apaiser les Français et reconquérir une partie des Français. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut y arriver avec cette méthode ?
Non, parce que je pense que...
Et tourner la page du coup de la casserolade et de la colère des retraites, quoi.
Il faut être clair, ça va s'apaiser naturellement parce que les gens ne peuvent pas se maintenir dans un état de tension permanente, parce qu'on a bien vu qu'un mouvement social, ça ne peut pas tenir sur la durée, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas faire grève autant que ça, parce que c'est épuisant, parce que c'est dur. Donc évidemment qu'au bout de 100 jours, on va constater qu'il y a de moins en moins de casserolades, il n'y a pas de mouvement social. D'accord. Est-ce que ça signifiera pour autant que les Français auront considéré que la politique qui est menée est la bonne ? Non. Non, parce que la question est celle des problèmes concrets qu'ils rencontrent. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura réellement recréé de l'emploi industriel ? Est-ce qu'on aura réellement amélioré le pouvoir d'achat ? Enfin, pardon, mais il n'y a toujours pas de politique du logement. On attend toujours. C'est le sujet qui grève le pouvoir d'achat des Français. Donc, des choses à faire, il y en a, qui seraient urgentes, plutôt que de venir faire des petits cadeaux pour essayer de dire que pendant 100 jours, ça va être la trêve, on va s'apercher.
Les petits cadeaux, c'est la vie quotidienne, les bourses,
mais la vie quotidienne, c'est les 30% du pouvoir d'achat des ménages qui sont pris par le logement. Alors, ça, c'est la vie quotidienne des gens.
D'abord, en ce qui concerne les mesures sur la vie quotidienne, quand elles atteignent le nombre qu'elles atteignent là, ça correspond quand même non seulement à une volonté, mais à des résultats perceptibles pour les gens. Je veux dire que tout l'ensemble de ces mesures, c'est pas simplement des espèces de berlingots qu'on distribuerait au moment des vacances.
C'est pas les préoccupations numéro un des Français. Le retrait de points,
Bon, c'est bien, mais je pense pas que les automobilistes pensent qu'à ça.
Je pense qu'ils n'ont pas été mécontents, franchement.
D'accord. Non, mais ils sont pas
je ne sais pas comment vous conduisez.
Ça n'a pas changé leur vie.
Mais je pense qu'ils n'ont pas été
mécontents. Mais ça n'a pas changé fondamentalement leur vie.
Changer leur vie.
Ultra riche, ça change la vie de personne.
Attendez, changer. Changer la vie, je connais le slogan, il a été suffisamment utilisé. Franchement, l'idée.
On va changer la vie.
On va changer la vie par décret. Non, franchement, non.
Oui, bah, parce que là, ça sert à quoi de faire la politique, alors.
Alain, la politique.
On n'améliore pas la vie.
Oui, mais non, mais c'est la définition non,
vous
de la politique.
Vous dites des choses très différentes là. Changer la vie, c'est un idéal.
Bah, améliorer.
Bon, améliorer la vie, c'est ponctuel et c'est concret.
Chasser les ultra riches.
Si déjà,
parce que ça va améliorer la vie des Français. Là, non. On fait plaisir.
En tout cas, d'abord, si c'est le moyen de discerner des fraudes et de les combattre, tant mieux.
Oui, oui. Bon, personne et ne dira le contraire.
Bah oui.
Ça ne réglera pas le problème.
Et d'autre part, en ce qui concerne la volonté de transparence, notamment des plus privilégiés, comme on passe son temps à dire que c'est une politique pour les riches, et ben là, en l'occurrence, c'est pas une politique pour les riches. Ça veut pas dire que c'est l'inversion d'une politique, évidemment. C'est une correction de trajectoire. C'est une volonté d'image et peut-être de résultat, mais c'est comme ça. Mais pour le reste, il y a une, si j'ose dire, une politique polonie qui est tout à fait cohérente et que dont on retrouve des échos chaque semaine dans vos éditos, dans les
mais
débats
celle de
qu'on a et dont je me réjouis. Mais il y a
la question de savoir est-ce que Emmanuel Macron à qui on reprochait de ne pas avoir fixé de cap il y a un an lorsqu'il a été réélu. Est-ce que là il y a un cap? Est-ce qu'on sait où on va?
Alors il y a un an j'ai été le premier. J'ai, comme tout le monde, relevé que pendant la campagne, il n'y avait pas eu de projet perceptible et audible. Bon, maintenant, on est d'accord ou pas, mais il y a un retour explicite et assumé à une politique économique néolibérale, qui avait été mise entre parenthèses complètement pendant toute la période, évidemment, du Covid. Donc, il y a un retour à ça. Bon, ça passe par une volonté de baisser le chômage qui a quand même fonctionné. Faut pas oublier qu'il y a 10 ans, c'était le problème numéro 1 des Français, quand même, le chômage, et qu'il a baissé significativement.
Passer,
non, mais. Je suis pas en train de vous dire c'est fini. Je dis pas ça. Je dis, il y a eu des progrès. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès.
Non, mais bon, c'est vrai.
Et comme depuis 30 ans, à juste titre, on se désolait de l'inefficacité de la lutte en faveur de la baisse du chômage, mais il faut reconnaître
qu'aujourd'hui, les professions de l'Europe, c'est le salaire maintenant. D'autre part,
sur le plan fiscal, le fait d'avoir des allègements dont ont profité les entreprises, dont ont profité aussi des particuliers, bon, le fait qu'il y ait eu ces allègements, ça a été efficace.
Natacha.
Et en plus, c'était souhaitable.
Alors, le problème est de savoir, ça nécessite d'aller finement dans les politiques qui sont menées. Par exemple, quand Emmanuel Macron nous explique qu'il y a eu 200 usines qui ont ouvert l'année dernière, c'est tout à fait contestable comme chiffre. Quand on regarde les emplois qui sont créés, il faut savoir quelle est la structure de l'emploi, c'est-à-dire...
On a dit 100 000.
Oui, d'accord.
Non, mais
quel type d'emploi, avec quel salaire... Oui, je suis d'accord, Alain.
Bah, mais
pour vous expliquer comment on peut juger de l'efficacité d'une politique à long terme. Parce que
la
capacité d'Emmanuel Macron à améliorer ponctuellement la vie quotidienne des gens, ça, on ne la nie pas. On l'a même salué au moment du Covid. C'était nécessaire de faire des chèques. Le problème, c'est qu'on a continué derrière sans véritable cohérence. On a fait des chèques énergie plutôt que de mener une politique qui permettait de rétablir un vrai prix de l'énergie.
Vous voyez,
dans tous les domaines, faire de la dette pour essayer d'apaiser plutôt que de mener une politique, encore une fois, pardon de le dire, cohérente, qui identifie les véritables problèmes, c'est-à-dire la concurrence déloyale, qui permet de créer, en fait, de détruire petit à petit des emplois. Je regardais, par exemple, la balance commerciale de la France. Vous voyez que là, c'est très bien de recréer des emplois à coût de subventions, notamment de subventions aux entreprises, mais à long terme, vous ne permettez pas de recréer un tissu économique qui soit solide. Donc, c'est pour ça que je me permets d'être sceptique sur la politique qui est menée.
Moi, je vous dis simplement que c'est mieux d'avoir recréé, de commencer et d'avoir recréé des emplois industriels et de commencer à le faire et de vouloir le développer avec une politique qui est cohérente que ce qui a pu se passer pendant très longtemps où, au contraire, il y avait une désindustrialisation. D'autre part, je reviens sur ce que que vous disiez en ce qui concerne le marché de l'énergie. Je suis tout à fait d'accord que le système actuel est complètement aberrant. Il faut reconnaître que la France, le prix du gaz et de l'électricité accrochés l'un à l'autre de façon artificielle avec des conséquences déplorables. Je suis d'accord.
On y est toujours.
Mais il faut reconnaître les choses comme elles sont. La France fait ce qu'elle peut à Bruxelles pour se bagarrer, pour y mettre fin. Il ne faut pas dire qu'on reste les bras croisés et qu'on s'en moque.
Merci Alain Duhamel, Natacha Polony, la une de Marianne.
La une de Marianne avec le palmarès donc, des villes qui risquent de manquer d'eau dans les années qui viennent.
Et c'est malheureusement pour les Gardois, c'est Arles.
Voilà, mais derrière, vous avez Angers, vous avez Saint-Nazaire, des villes auxquelles on ne s'attendrait pas.